إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons aujourd'hui inshallah le hadith numéro 12. الحديث الثاني عشر جهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء. Combattre les déviants, ceux qui dévient de la voie des prophètes. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أخرجه مسلم وأحمد. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un prophète qu'Allah ait envoyé avant moi sans qu'il ne se trouve dans sa communauté des Hawari, c'est-à-dire des Ansar, c'est-à-dire des secoureurs, des aides, les purs parmi les compagnons, les plus sincères parmi les compagnons, ceux qui sont autour des prophètes, leur venant en aide par tous les moyens possibles. Cela, on les appelle al-hawariyoun. Et des compagnons qui prennent les enseignements, la méthodologie, la voix du prophète et qui s'acquittent des ordres qui leur sont donnés par ces prophètes. Donc ils obéissent aux ordres, ils appliquent ce qu'on leur demande et ils sont sur le même chemin derrière les prophètes. Puis après ces Hawari, ces Ashab, viennent d'autres générations, des personnes qui viennent après. Ils disent de par leur bouche ce qu'ils ne font pas. Et ils font ce qui ne leur a pas été demandé. Celui qui les combat, c'est-à-dire qui les contre, et qui se met face à eux pour leur montrer qu'ils ne sont pas dans le droit chemin, celui qui les combat
avec sa main est un croyant. Celui qui les combat avec sa langue est un croyant. Celui qui les combat avec son cœur est un croyant. Et en dessous de cela, en dessous de ce combat par le cœur, il n'y a plus aucune trace de la foi, même pas le poids d'une graine de moutarde. Et comme vous le savez, la graine de moutarde, elle est minuscule, elle est toute petite. Parfois, dans d'autres hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam emploie le mot dharra, mithqalu dharra. Le poids, et beaucoup le traduisent par l'atome. Ça, c'est une fausse traduction. Pourquoi ? Parce que l'atome était inconnu à l'époque des compagnons. Le mot atome, l'emploi, le mot atome qu'on connaît aujourd'hui, était inconnu à l'époque des compagnons. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ne leur employait pas des mots qu'ils ne comprennent pas. Bien qu'aujourd'hui, al-dharra, on l'emploie pour l'atome. Mais ce n'est pas ce qui est voulu au moment que ce mot est employé par le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le mot dharra, ici en arabe, il fait allusion à la plus petite des fourmis. C'est la fourmi rouge. Elle est tellement petite qu'elle ne pèse rien sur la balance. Donc on l'a donné comme exemple pour dire qu'une personne n'a rien, il n'a même pas le poids de cette petite fourmi rouge qui ne pèse rien sur la balance. Donc dans le hadith, et d'où l'importance de savoir le sens des mots par celui qui les emploie et aussi au moment où il est employé, pour ne pas leur donner une signification qui est tout autre. Rapporté par Muslim et Ahmed ibn Hanbal, rahimahumallah. Rawi al-Hadith, le rapporteur du Hadith, Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, taqaddamat tarjamatuhu fi sharh al-Hadith, raqm 5. On a déjà vu brièvement sa biographie lors du hadith numéro 5. L'étude du hadith numéro 5, le cheikh en avait déjà parlé. Al-mufradat, le vocabulaire. Al-hawariyun. Hum khulasa'u al-anbiya wa asfiya'uhum. Wa qila al-ansar wa qila al-mujahidun. Ce sont les purs parmi les compagnons, les plus sincères parmi les compagnons des prophètes. Et on les appelle aussi Al-Ansar. Et ceux qui ont secouru Isa alayhi salam, on les appelle Al-Nasara. C'est la même racine. Ce sont ceux qui ont secouru, qui ont donné leur aide aux prophètes. Et il est dit, ce sont ceux qui combattent dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Takhlufu, tahduthu. C'est-à-dire qu'ils viennent avec des choses nouvelles, des générations qui viennent après, mais qui viennent avec des enseignements tout autres que l'enseignement laissé en héritage par le prophète alayhi salatu wassalam et tous les autres prophètes alayhi salatu wassalam. Donc dans tous les peuples, il y a eu les sincères qui étaient attachés aux enseignements du prophète qui leur a été envoyé et qui s'acquittaient des ordres qui leur a été donnés et qui ne déviaient pas du droit chemin. Et après ces bonnes générations, venaient des générations qui, eux, inventaient dans la religion, amenaient des choses nouvelles. Ils disent ce qu'ils ne font pas et ils font ce qu'ils ne leur est pas demandé. Donc, pour toutes les communautés, il y a eu des générations qui ont agi ainsi et de même dans la nation du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Al-Khulouf, jam'u khalf. C'est le pluriel de khalf. Bi-iskani l-lam. Avec le soukoun sur le lam, on dit khalf. À la différence de khalef. Khalef, c'est avec un fatha sur le lam. Al-Khalef, ce sont les successeurs, mais en bien. Al-Khalf, les successeurs, mais en mal. Ils ont mal succédé. Ils ne sont pas restés sur la même lignée que leurs prédécesseurs. Comme Allah dit dans le Coran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ Khalfun adha'u salah. D'accord, des successeurs sont venus après eux et ils ont délaissé la prière. Wa huwa al-khalif bish-shar. Et c'est le successeur en mal. Celui qui n'est pas resté sur la même lignée, qui a dévié. Il est successeur du fait qu'il est venu après. Il a succédé. Mais il n'est pas resté sur les mêmes enseignements. Al-ma'na al-ijmali, le sens global. هذا الحديث فيه إخبار عن أحوال الأنبياء وأحوال أممهم. Donc dans ce hadith, il y a l'information donnée sur les états ou les situations des prophètes ainsi que leur peuple. وأن أصحابهم وحواريهم الذين وحواريهم الذين استضاءوا بنور نبوتهم وشاهدوا نزول الوحي عليهم يظلون أوفياء مخلصين لربهم ومتمسكين بهدي أنبيائهم في الظاهر والباطن تطابق أقوالهم تطابق أقوالهم أفعالهم. Et que leurs compagnons, les compagnons de tous les prophètes, chaque prophète hein, qui a eu des personnes qui ont cru en son message, donc il a eu des compagnons. Et il a eu parmi ses compagnons des personnes sincères dans leur suivi. Ceux qui ont été guidés par la lumière de leur prophétie et qui ont été témoins de la descente de la révélation sur eux, ils resteront, persisteront dans ce suivi sincèrement envers leur Seigneur, attachés à la voix de leur prophète, de par leur extérieur ou intérieur, extérieurement ou intérieurement, c'est-à-dire que ce sont des vrais, des véridiques dans leur suivi, leurs paroles concordent avec leurs actes. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Donc il y a une concordance avec les paroles et les actes. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas ceux qui parlent en disant ce qu'ils ne font pas, en prétendant faire des choses alors qu'en réalité ils ne le font pas. Le bon musulman est quelqu'un dont la parole concorde avec ses actes. Ce qu'il dit est purement la vérité. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Dans le sens des versets, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Quelle chose énorme auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Thumma takhlufuhum ajyal yahidu bihum ash-shaytan 'an manahij al-anbiya. Puis viennent d'autres générations qui n'ont pas connu les prophètes directement. Et le diable, Satan, vient jouer avec eux, vient les faire glisser, les faire dévier de la voie des prophètes. يَدَّعُونَ بِأَقْوَالِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى نَهْجِ الْأَنْبِيَاء. Mais ils prétendent, de par leur langue, qu'ils sont sur la voie, le chemin des prophètes. Et ils sont bien nombreux, ces gens-là, dans toutes les époques. Donc, vous ne verrez pas un déviant dire « je suis déviant », un égaré dire « je suis égaré », un égaré dire « moi, je ne suis pas la voix du prophète », mais il va prétendre que ce qu'il fait concorde avec le prophète. Il va prétendre et dire tout haut que ce qu'il fait est en conformité avec la voix du prophète. Donc, ne soyez pas étonnés d'entendre cela. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un malade fou qu'il faut mettre dans un asile psychiatrique, qui viendra dire « ce que je vous demande, le prophète l'a interdit. Ce que je vous demande de suivre, le prophète n'a jamais demandé de le suivre. » Donc les gens, ils sont là en train de dire « mais il dit qu'il suit le prophète. » Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il vous dise qu'il ne le suit pas? Subhanallah. Combien de gens viennent défendre l'indéfendable avec ce genre de phrases? qui n'ont pas lieu d'être. Mais il a dit qu'il suit le Coran et la Sunna. Mais il a dit. Ces dires sont une chose. Nous, on ne parle pas de cette parole, on parle du contenu. On parle des actions qu'il y a. Est-ce qu'elles sont en conformité ou pas? Après vérification, ça ne concorde pas. C'est de cela qu'on parle. Mais combien de gens donc disent « mais il a dit ». Mais on suit tous le Coran et la Sunna. Comment tu le sais? Parle pour toi-même. Comment tu peux être garant pour les autres? Comment peux-tu être garant pour ce que tu ne sais pas? Une personne, elle est au tribunal. Vous ne pouvez pas le défendre sans connaissance du dossier. Et combien le font? Ouais, le pauvre, il est innocent. Allahu a'lam. Il se peut qu'il soit innocent et il se peut qu'il soit le véritable coupable. Comment vous pouvez? Et combien de gens parlent et viennent à défendre comme ça? Combien? Ah, c'est une victime. Allahu a'lam. Ne parle qu'en connaissance de cause. Devant Allah, comment tu vas témoigner? Encore plus dans le domaine religieux. Vous ne connaissez pas pourquoi vous vous avancez pour défendre l'indéfendable. Un alim, un savant qui a le savoir, la connaissance, il a vérifié les paroles, les convictions, les actions de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Et il vient à dévoiler et à démontrer la vérité aux gens et on se trouve face à des gens à défendre. Alors que eux ne connaissent pas, subhanallah. Et combien sont-ils? Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre ton frère ou défendre la victime ou l'opprimé. Si, mais défends-le en connaissance de cause. Tu connais, tu sais réellement. Par exemple, un musulman, il est touché par quelque chose. Et il y en a beaucoup du fait qu'il est musulman, donc il est victime. C'est vrai? Hein? Directement. La première chose qui leur vient, il est victime. C'est pas vrai, on a menti sur lui. Allahu a'lam. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous ramène des vidéos, le montre en train de faire? Vous allez dire quoi? Ah ben je pensais pas. Pourquoi tu as parlé avant? Pourquoi tu as parlé avant? C'est comme les parents qui pensent que leurs enfants ne font aucun mal. C'est les enfants des autres. Ah moi mon enfant il n'a rien fait. C'est les enfants des voisins. Mais les voisins ils disent la même chose. Pour défendre leur enfant, ils disent c'est les enfants des autres. Subhanallah. Combien de gens défendent, mais en réalité, ils ne défendent pas avec la vérité. Et le musulman est quelqu'un de juste et de droit. Même ton pire ennemi, tu ne l'accuses pas à tort. Tu ne l'accuses pas d'avoir commis quelque chose alors qu'il en est innocent. On est des gens de la droiture. Ça, c'est important. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y aura des générations qui vont faire le contraire de ce qu'il a enseigné. Qui suivront une autre voie que la voie sur laquelle il a laissé sa communauté. Donc, un des signes de la prophétie, c'est que arrivera ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam. Le fait qu'arrive ce qu'il a dit, c'est un des signes de sa prophétie. Il en a parlé avant même que ça apparaisse. Et il nous enseigne que cela est arrivé au peuple d'avant, avec leurs prophètes. Il y a toujours une partie de la communauté qui reste sur le droit chemin, même si leur nombre peut être petit, moins que les déviants, mais il y aura des gens déviants. Et au même moment, qui prétendront être sur le droit chemin. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Je ne vous dirige que vers le bon chemin. Et ce que je vois est en bien, alors qu'en réalité, il les a emmenés vers la perdition. Et il a dit sur Moussa et Haroun qu'ils sont venus pour les amener à leur perte. Alors qu'en réalité, Moussa et Haroun, ils sont venus pour les amener vers le chemin qui mène au paradis. Donc ce n'est pas toute parole qui concorde avec la réalité. ثم تخلفهم أجيال يحيد بهم الشيطان عن مناهج الأنبياء يدعون بأقوالهم أنهم على نهج الأنبياء ويخترعون من البدع والمناهج الباطلة ويرتكبون من المنكرات والمعاصي ما يجعلهم أبعد الناس عن أديان أنبيائهم ويعيشون في تناقضات بين أقوالهم وأعمالهم.
Et ils vont inventer ces générations qui dévient. Ils dévient en inventant des choses, en amenant des choses nouvelles dans la religion. Parmi les innovations religieuses et les méthodologies et des voies fausses et tout ce qui est contraire et contredit la voie du prophète, ce sont des voies qui sont fausses. Toute méthodologie qui contredit et qui est contraire à celle du prophète est une méthodologie qui est fausse. Et ils commettent des mauvaises actions et des désobéissances qui fait d'eux parmi les plus éloignés des religions sur lesquelles étaient les prophètes. Et ils vivent, ces gens-là, dans des contradictions entre leurs paroles et leurs actes. Ça ne se concorde pas. Donc, les sectes soufis, lorsqu'ils sont apparus, et ils se sont attardés sur un domaine de la religion, comme ils prétendent. Ils prétendent qu'ils s'occupent des cœurs, et ils travaillent le cœur, et qu'ils s'intéressent à un sujet que d'autres ne se sont pas intéressés, et qu'il faut obligatoirement avoir des maîtres, des professeurs qui te prennent par la main pour éduquer ton cœur, qu'ils disent qu'ils sont les maîtres de la spiritualité et qu'à force d'en parler, ils croient qu'il n'y a qu'eux qui en parlent, alors que c'est faux. Ils se sont attardés sur un sujet qui à la base existe dans l'islam, fait partie intégrante de l'islam. L'islam n'est pas venu pour s'occuper de l'extérieur de la personne en délaissant l'intérieur de la personne. L'islam est venu pour purifier les cœurs et purifier les corps. Le cœur et le corps se doivent être purifiés. Et dans la sunna du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il y a tous les enseignements qui nous sont suffisants. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le seul chemin agréé par Allah tabaraka wa ta'ala et qui mène vers le paradis. Contrairement aux soufis qui prétendent qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Allah. Il y a autant de chemins que d'âmes qui vivent. Si on est des milliards, il y a des milliards de chemins. C'est pour cela qu'il n'y a aucun souci que n'importe quelle personne peut inventer une voie soufie, une confrérie, et il appelle à sa confrérie. Et c'est pour cela qu'on se retrouve dans tous les pays musulmans avec multitude de confréries soufis. Certaines sont connues et d'autres ne sont pas connues par la masse des gens. Au Maghreb, on a Al-Tijaniya, Al-Shadhiliya, Al-Qadiriya. En Asie, en Égypte, en Syrie, et il y en a plein. Naqshbandiya, Al-Sahrurdiya, Al-Qadiriya, Al-Jashatiya, Al-Bouchichiya. Il y en a plein, 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 des sectes soufis. Et chacune prétend que son maître est le meilleur. Et le maître des maîtres chez eux, c'est Ibn Arabi. L'inconnu, l'indéfini. Il n'y a pas d'alif lam. Pour ne pas le confondre avec le grand savant malikite, Abu Bakr ibn al-Arabi. Bien qu'ils sont les deux andalous. Ibn Arabi, que la majorité des savants ont dit, vu ce qu'il a laissé comme trace, vu ce qu'il a prétendu, il dit qu'il est sorti de l'islam. Qu'il est mécréant. Et avec cela, c'est, il l'appelle Al-Sheikh Al-Akbar, le plus grand des shirks. Al-Tijani, pareil, bien que lui, il est venu bien plus tard, en 1800 et quelques, pendant la colonisation, au Maghreb. Bien qu'il est bien connu chez les Africains, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Afrique noire, mais c'est un Maghrébin. Et que les ulama venus après, qui ont vu ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, ils ont dit qu'il est sorti de l'islam. Parce qu'ils sont venus avec de la mécréance, ces gens-là. Et les gens les prennent pour des maîtres soufis. Ce sont des gens qui ont ramené wahdatul wujud, l'unité existentielle. Ils prétendent que tout ce qui existe n'est que Allah. Il n'y a qu'une seule existence. Que tout ce que tu vois n'est que Allah. Parmi eux, il y en a qui disent que le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont mis la divinité dans Jésus. Ils l'ont réservé qu'à Jésus. Alors que s'ils l'avaient laissé pour tout le monde, il n'y avait pas de problème. Wal'iyadu billah. Mais de l'avoir rendu exclusivement à Jésus, c'est là où il y a eu le problème. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Ah, Ibn Arabi et des maîtres soufis, eux, ils disent que ce sont des maîtres. Ibn Sab'in, Al-Bustami et d'autres, ils ont des paroles, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et il dit, parmi ces paroles, wal'iyadu billah, c'est même pas la peine de les dire. Ils disent que le porc et le chien n'est que notre divinité. L'un d'entre eux dit, il n'y a à l'intérieur de ce vêtement que la divinité. Parce que tout est Allah. Wal'iyadu billah. Ça, c'est de la mécréance. Al-Tijani, Ahmed Al-Tijani, il a dit que réveillé, pas dans le sommeil, hein, réveillé, en éveil, le prophète est venu à lui. Et il lui a parlé, et il lui a donné un message qui n'existe pas dans le Coran et la Sunna. Et il lui a dit, tiens cette prière qu'ils appellent Salatul Fatih. Et beaucoup la récitent après les prières. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih et lima ughliq, hein, qui la récite. Cette salat, il l'appelle Salatul Fatih, la prière du conquérant. Salatul Fatih, ils disent que celui qui la récite une seule fois, c'est mieux que de réciter le Coran 6000 fois. A'ouzou billah. La parole d'une créature inventée, que jamais le prophète n'a enseignée, meilleure que la parole du Créateur. Allahu Akbar. C'est grave. Et combien de gens, sans compter tous les actes de polythéisme, que dont sont une des grandes sources, les sectes soufis. Le polythéisme et les actes d'association qui sont propagés dans le monde musulman sont dus en grande partie à cause des sectes soufis. Eux, ils prétendent qu'ils ont protégé les croyances des musulmans pendant la colonisation. Faux! Les sectes soufis, vous avez protégé quoi? Vous avez combattu les prêcheurs du tawhid pendant la colonisation. Vous avez combattu les savants et les réformateurs qui ont appelé à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui ont combattu le colonisateur de l'autre côté. Mais eux, d'un point de vue général, ont beaucoup contribué à la colonisation. Et le colonisateur les a remerciés en leur donnant de l'importance dans la communauté et en les mettant devant, en leur faisant croire aux gens de la masse que c'est eux vos références religieuses. Et leur lieu de prière ou d'innovation et d'action contraire à la tradition du prophète, on a fait des routes, on a goudronné pour faciliter aux gens d'y aller et de s'y rendre. Voilà la réalité. Qu'est-ce qu'ils ont préservé, qu'est-ce qu'ils ont protégé, si ce n'est des actions d'innovation et de polythéisme, wal'iyadu billah. Contrairement aux véritables savants réformateurs qui ont prêché le vrai islam. Celui qui a protégé la croyance des musulmans, c'est celui qui a propagé le tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui a combattu toutes les formes de polythéisme. Et sont nés dans ces mouvements d'autres qui, pour se faire passer pour des réformateurs, la secte des frères musulmans, la secte des Tablir, dont les fondateurs étaient au sein des sectes soufis. Le fondateur des Tablir, il le dit lui-même, qu'il a prêté allégeance à 4 sectes soufis. Et Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, il le dit même dans certains de ses ouvrages qu'il assistait et qu'il participait avec la secte soufie qui s'appelle al-Hassafiyya en Égypte. Et eux sont venus amener des méthodologies jamais enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Hassan al-Banna a ramené les 20 fondements al-usul al-ishrin. C'est sur lesquels il faut se mettre d'accord, sur lesquels ils font le pacte d'allégeance. Et donc n'importe qui peut entrer dedans tant qu'il accepte les 20 fondements. C'est pour cela qu'au sein des frères musulmans, on a trouvé des chrétiens, on a trouvé des chiites, et ainsi de suite. Il n'y avait aucun problème tant que le combat qu'on va mener est le même et on est d'accord sur ces 20 fondements. Et Jama'at al-Tablir, Mohamed Ilyas al-Kandahlaoui, il a ramené ces 6 fondements. Les 6 fondements qu'il a ramenés et qu'il en a fait les règles de base de tout Tablir. Jamais le prophète n'a enseigné cela. Mais ils vont, vous, face aux gens, montrer des choses pour que ça soit accepté. Ça n'existe pas un innovateur qui ne vous ramène pas une preuve. Ah, mais il a une preuve. Mais vous croyez qu'il va venir avec rien? Il a une preuve. Et tout innovateur, il a une preuve. Mais la preuve, elle n'est pas avec lui. Mais il vous fait croire qu'elle est avec lui. Et vous, vous jugez avec votre ignorance. On va juger avec notre ignorance. Donc on va dire, ah ben voilà, il a une preuve. C'est nous-mêmes. Mais le alim va dire, non, cette preuve-là ne veut pas dire réellement ça. Cette preuve-là veut dire ceci et cela. Vous avez mal compris le verset. Vous avez mal compris le hadith. Le contexte n'est pas le même. Et ainsi de suite. Ça, c'est le alim. Donc les gens, au lieu d'aller se renseigner chez les gens de science, c'est eux-mêmes qui jugent. C'est eux-mêmes qui jugent. C'est comme cet amour qu'ont certains de faire des débats. Les débats, les débats, les débats, les débats. L'islam, il n'y a pas de débat. On n'est pas musulman suite à un débat. On n'a pas été convaincu de l'islam suite à un débat. Ce n'est pas un débat. C'est une certitude, une réalité. Il se peut que les gens du faux poussent quelqu'un du vrai, de la vérité, à débattre et, selon certaines conditions, il va accomplir ce débat. Mais jamais un savant de la sunna, de lui-même, il appelle les gens à un débat. Ça n'existe pas. Et dans la religion, les débats, c'est source de troubles et de problèmes dans la personne. Les personnes qui aiment le débat, ce sont des personnes qui sont perturbées. C'est pour ça qu'il faut les laisser entre eux. Ça ne sert à rien. Si toi, tu n'es pas perturbé, tu vas le devenir si tu côtoies cette personne. Et si tu discutes encore avec cette personne. Il était malade tout seul, maintenant vous êtes deux malades. C'est un problème. Et il y en a qui ont cet amour de regarder les débats. Comme si on va débattre. Si tu gagnes, on dira qu'Allah il n'existe pas. A'udhu billah. On va débattre sur l'existence d'Allah. Tu n'arrives pas à parler. Tu n'as pas les mots qu'il faut. Lui, c'est un beau parleur. Et devant la masse, il gagne. Donc Allah il n'existe pas. A'udhu billah. A'udhu billah d'en arriver à ce stade-là. C'est une maladie. Et il y en a, ils ont quitté l'islam à cause des débats. Je vous ai déjà parlé de Abdullah al-Qasimi. Il y a près de 70 ans, 80 ans en arrière. C'était un Saoudien. Il a écrit des livres sur le tawhid. Il est parti en Égypte s'installer. Il a commencé à entrer dans des débats, des discussions, ainsi de suite. À la fin, il a écrit des livres sur l'athéisme. Il est devenu athée. Il ne reconnaissait plus l'existence d'Allah, tabaraka wa ta'ala. A'udhu billah. Pas de dire, moi je suis fort, moi j'ai ce qu'il faut. Tu n'es rien, si ce n'est l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu es perdu. De trop avoir cette confiance en soi. Moi je suis capable, c'est moi qui va faire, c'est moi. Et en plus, une des mauvaises conséquences des débats, c'est que la personne, elle aime gagner. Elle a cet amour de gagner. Elle est fière d'avoir gagné, d'avoir eu le dessus. Ce n'est pas comme les véritables et sincères. Lorsqu'ils ont débattu, c'est parce qu'ils ont été contraints de débattre et Allah leur est venu en aide. L'imam Shafi, lorsqu'il dit, parce que des fois, sur des questions fiqhiyya, où il y a, les ulama peuvent discuter, il dit, jamais j'ai fait attention, est-ce que la bonne réponse, elle vient de moi ou de celui qui est en face de moi? Lui, l'essentiel, c'est de finir sur une vérité. Qu'elle vienne de moi ou de celui en face de moi. Les débats, c'est quoi? La personne, elle veut gagner. Et parmi les problèmes, c'est que si tu te sens en faiblesse, tu peux même te défendre avec ce que même toi tu es sûr de toi que ce n'est pas bon. Et tu vas te défendre avec. Pourquoi ? Parce que tu as envie de gagner le débat. Donc ça, ce n'est pas. On va débattre, on va ramener les vidéos, on va ramener la caméra devant tout le monde. Et c'est qui va juger ? C'est les gens, c'est le public. Ils vont faire un vote. Allah il dit dans le Coran, « Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah » dans le sens du verset. Et si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Mais la plupart des gens, même si tu fais les efforts qu'ils font, ils ne seront pas croyants. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne sont croyants qu'en étant des polythéistes. C'est-à-dire, ils ont la croyance dans la seigneurie, mais dans la divinité, ce sont des polythéistes. Donc, c'est cette histoire de penser, de faire des débats comme un show, je ne sais quoi. Ça, c'est un bon musulman, il n'a rien à voir avec ces choses-là. L'islam, c'est pas la personne. On les a vus, les gens qui débattent. Quand il est dans le droit chemin, c'est pour une période. Il suffit qu'il tombe sur quelqu'un qui va avoir le dessus, il va le suivre. Ils ne tiennent pas sur un bon, ils ne tiennent pas. Alors que les véridiques, ça y est, c'est bon, ils sont sur le droit chemin. Ils sont convaincus de la prophétie du message de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ils sont convaincus que personne en dehors d'Allah n'a le droit de recevoir une quelconque adoration, que tout culte doit être voué exclusivement à Allah, azza wa jal. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Allah, c'est celui sur lequel nous a laissé le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Les ulamas ne sont pas infaillibles, ils peuvent se tromper, mais les ulamas de la sunna, ils sont là pour nous illuminer le chemin, pour nous montrer le chemin et non pas pour s'attarder sur l'un d'entre eux et le prendre comme un prophète. Ça, c'est des convictions, subhanallah. On voit des gens, des fois, pour tel ou tel problème, ils sont perturbés, ils remettent en cause même les principes de la religion, subhanallah. Ah, mais moi, je ne comprends plus rien. Vous entendez des fois ce genre de phrases, hein, subhanallah. Comment un bon musulman qui a bien appris les bases de sa religion peut parler ainsi? C'est pas possible. Ces phrases, elles viennent de quelqu'un qui a un problème. Donc il y en a, hein, pendant un moment, ils sont dans le droit chemin, mais ils doivent demander la fermeté dedans. C'est pour ça que quand tu demandes la guider, d'être guidé vers le droit chemin et d'être guidé dans le droit chemin, de rester dans le droit chemin. Il faut demander le raffermissement à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout le temps le demander à Allah Azza wa Jal de nous raffermir, de rester sur le droit chemin. Parce que des vagues, elles arrivent. Et des vagues, elles prennent des personnes. Donc il faut faire attention. Donc parfois, oui, mais pourquoi parler sur les gens? Pourquoi c'est interdit de parler sur les gens? Subhanallah. C'est qui? Les gens jugent eux-mêmes. Oui, et cette personne qui parle, lui-même, il parle sur les gens. Lui-même. C'est-à-dire qu'il va te dire une chose que lui-même, c'est en contradiction avec ses actions à lui. Subhanallah. Hein? Ils disent, pourquoi vous parlez sur les gens? Pourquoi vous parlez sur les partis? Pourquoi vous parlez? Le problème n'est pas de parler. Il faut regarder le contenu. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Est-ce que ça a lieu d'être ou pas? Est-ce qu'il y a une utilité ou pas? Des gens qui parlent, tout le monde parle. Mais après, il faut voir le contenu et l'intérieur de ces paroles. C'est tout à fait normal. Il n'y en a pas assez de voir tous ces gens qui ont dévié du droit chemin, tous ces gens qui ont été induits en erreur, tous ces gens qu'on s'est moqué d'eux. Un musulman sincère ne peut pas rester comme ça. Il sait et il dit rien. Et là, on voit le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Ces gens qui dévient, ces gens qui disent ce qu'ils ne font pas, qu'ils font ce qui ne leur a pas été demandé, ce sont des générations qui ont dévié du droit chemin. Face à eux, il y a qui? Il y a ceux qui les combattent. Celui qui les combat avec sa langue, hein, il est croyant. Celui qui les combat avec sa main, avant, il est croyant. Avec sa langue, il est croyant. Avec son cœur, c'est le minimum. Le minimum, c'est le cœur. Il est croyant. Donc ça, ce sont des signes de la croyance et de la foi. Subhanallah. Des signes de la foi. Tu ne peux pas. Dans ce bas monde, personne n'accepte. Quelqu'un qui te voit acheter chez quelqu'un qui est connu pour l'arnaque. Et lui, il est à côté de toi, il le sait. Et il ne te dit rien, il ne parle pas. Et toi, tu achètes cette marchandise, le lendemain, tu vois le résultat. Que tu t'es fait arnaquer, tu t'es fait avoir. Et la personne à côté, tu apprends qu'il était au courant. N'importe quelle personne, il lui en voudra. Ah, mais moi, on m'a dit de ne pas parler sur les gens. On m'a dit qu'il ne fallait pas parler, c'est de la médisance, c'est interdit. Moi, je dis rien du tout. Je regarde et c'est tout, je ne fais rien du tout. Ça ne me regarde pas, je ne suis pas concerné. C'est une bonne personne qui est cette personne qui agit ainsi. Il n'a pas un problème dans sa compréhension de la religion, dans sa compréhension du mot médisance. Il y a un problème. Mais alors que dire de quelqu'un, il regarde celui qui te prend par la main pour t'emmener dans un chemin qui mène vers le feu de l'enfer. A'oudhou billah. Il te fait dévier de la voie du prophète. Et lui, il le sait, et il dit, on m'a dit de ne pas parler. Subhanallah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Donc, ils inventent des choses dans la religion, des nouveautés dans la religion, des innovations, et ils commettent des actes de désobéissance. Et en faisant cela, ils sont les plus éloignés de la religion sur laquelle étaient les prophètes. Et en agissant ainsi, ils sont dans une contradiction totale. Leurs paroles sont contraires à leurs actions. Puisqu'ils disent, on est dans le droit chemin, et en fin de compte, ils ne le sont pas. Ils disent, on suit le prophète, et en fin de compte, ils ne suivent pas le prophète. Donc, il y a une contradiction entre leurs paroles et leurs actes. وَيَبْقَى فِي كُلِّ أُمَّةٍ عُلَمَاءُ مُخْلِصُونَ أَوْفِيَاءُ لِدِينِهِمْ يُجَاهِدُونَ وَيُنَاضِلُونَ عَنْ تَعَالِيمِ أَنْبِيَائِهِمْ. Et il restera dans chaque nation des savants, ceux qui ont le savoir. Le savoir, c'est l'héritage des prophètes, des gens sincères, dignes de confiance envers leur religion, qui combattent et préservent les enseignements, qui combattent pour et ils préservent les enseignements de leurs prophètes. Kullun ala hasabi taqati wa manzilatihi min al-iman. Chacun selon sa capacité, sa possibilité et son degré de foi. Les gens ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas tous au même degré de foi. Il y en a, ils ont plus de foi que d'autres. Mais le dernier d'entre eux, il combat avec son cœur. Donc il le combat seulement, il se contente seulement de son cœur pour, des fois, il y a des moments, des situations qui font que la personne, elle ne peut ni agir avec ses mains, ni parler, mais il combat cela et il rejette cela, il se désavoue de cela avec son cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. فَمُجَاهِدٌ بِلِسَانِهِ وَمُجَاهِدٌ بِيَدِهِ وَمُجَاهِدٌ بِقَلْبِهِ. Il y a celui qui combat avec sa langue, celui qui combat avec sa main et celui qui combat avec son cœur. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et voilà le plus bas degré de la foi. وَلَيْسَ وَرَاءَهُ شَيْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ. Derrière cela, il n'y a plus rien qui reste de foi. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقع فيها ما وقع في الأمم السابقة. Et la communauté, la nation du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il lui est arrivé la même chose qui est arrivée au peuple et aux nations d'avant. وخلفت بعد القرون المفضلة خلوف تفرقت بهم السبيل وشتتهم الأهواء وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Et donc, il lui est arrivé à cette communauté comme ce qui est arrivé aux communautés d'avant. Après les bonnes générations, les générations vantées par le prophète alayhi salatu wassalam, la génération des sahaba, des tabi'in, des atba' tabi'in, après ces trois générations sont apparues bien comme il le faut, bien qu'avant sont déjà nés hein, les débuts des sectes comme Al-Khawarij, Al-Murji'a, Al-Shi'a, Al-Qadariya, et plus tard, il y en aura d'autres et qui vont prendre de l'ampleur encore plus. Donc, des générations qui ont dévié, dévié du droit chemin et dont les passions les ont dispersées et a eu raison sur eux la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Certainement, vous allez suivre les voies, les chemins des peuples avant vous. Vous allez juste être derrière eux. Il n'y aura pas beaucoup de distance entre vous et eux. C'est-à-dire que dès qu'ils font quelque chose, vous êtes derrière pour commettre la même chose qu'eux. Et même s'ils viennent à entrer dans le trou d'une bestiole, vous y entrerez. Et dans l'autre hadith, et cette communauté, la communauté du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, va se diviser en 73 factions. Ils iront tous dans le feu de l'enfer, sauf une seule. Ça, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on voit des gens dire, ouais, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui prétendent être le groupe sauvé ? Subhanallah. Pourquoi il n'y a pas de groupe sauvé ? Comment se fait-il que les salafis disent que c'est eux la faction rescapée ? Pourquoi il n'y a pas de faction rescapée ? Jusqu'à même remettre en cause le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains parmi eux disent, ce hadith, c'est lui qui a divisé la communauté. S'il n'y avait pas eu ce hadith, la communauté ne serait pas divisée. A'udhu billah. Ahlul dalal, ils ne savent même plus comment se défendre. Et parmi ceux qui ramènent ce genre de phrases, Hassan al-Hussein, qui est connu pour son éloignement des enseignements de l'islam authentique. Il est historien, il aurait dû rester dans son domaine et laisser tranquille les enseignements religieux. La seule religion, Allah ses savants, Allah ses enseignants, Allah ses spécialistes. Mais lui, puisque le borgne est guide et il est maître dans le monde des aveugles, et sont apparus dans une époque où la majorité des gens ne connaissaient pratiquement rien sur l'islam, il fallait un bon petit parleur qui récite quelques versets, quelques hadiths, qui parle un peu l'arabe et les gens le suivent en masse. Il n'en faut pas beaucoup, hein. En masse, voilà. Il parle bien, voilà. Il est présentable, entre guillemets. Qu'est-ce que veut dire présentable ? D'accord ? Hein ? Bon, ça c'est une autre question, parce que c'est grave. Une fois, ils nous ont demandé sur Jamaat al-Tablir, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans en arrière. Il a dit, s'ils ont des gens bien, je résume, hein. C'est pas du mot à mot. Pas quelqu'un qui l'a vérifié, il me dit, c'est pas le mot à mot. Je vous ramène le contenu. Mais ils ont des problèmes. En entendant cela, on pensait qu'il allait parler de certaines déviances qu'ils ont. Non, il parle de leur tenue vestimentaire. Il dit, leur problème, c'est leur 33 tours. Il appelle 33 tours, c'est le turban. D'accord ? Et la robe. La robe, c'est le qamis, la tunique. Et j'étais comme eux, moi aussi auparavant. Mais quand je me suis habillé comme eux, tous mes copains du quartier se sont sauvés de moi. Puis, je suis rentré à la maison, j'ai enlevé tout cela, j'ai remis mon jean et mes baskets, et je suis redescendu, et là, tous mes copains sont revenus à moi. Et là, vous attendez bien que les gens, la foule, vont aller applaudir. Ça, pour eux, ça, c'est... Les gens ont assisté à un cours de religion. Tellement que ces gens-là aussi, les frères musulmans, ils ont un problème avec l'argent. L'argent. Ils sont connus, hein. Ils sont maîtres en la matière. On leur reconnaît ça. Pour ramasser de l'argent, c'est vrai qu'ils sont à un stade. Et c'est pour cela qu'il y a des mosquées, ils les cherchent. Et il y en a même, ils sont célèbres. On les ramène que pour ramasser de l'argent. L'argent, on en a besoin. L'argent, on s'en sert pour mieux adorer Allah Azza wa Jal. Ça nous permet de faire des sadaqas, de faire la zakat. Ça nous permet de donner aux pauvres. Ça nous permet de faire le pèlerinage, de faire la umrah. Ça nous permet de voyager pour aller étudier. Ça nous permet beaucoup de choses. L'argent, on en a besoin. L'argent, on en a besoin pour notre dignité et notre fierté. Comme ça, on n'a pas à tendre la main ou à demander à quiconque. D'accord ? Pour subvenir à sa propre personne, à sa famille, et ainsi de suite. Mieux vaut être le donateur que d'être celui qui reçoit. L'argent, elle sert à construire des mosquées. Elle sert à te construire ta demeure. Et ainsi de suite. Mais l'argent, tu l'as dans ta main, pas dans le cœur. Ces gens-là, c'est l'argent, elle a pris une place. Tellement que l'argent, elle a pris une place, regardez ce qu'il dit. Qui est Hassan et Hussein ? Il dit qu'il préfère ceux qui viennent donner de l'argent, même s'ils ne viennent pas à la mosquée pour prier, que les personnes qui viennent polluer ou salir les tapis de prière 5 fois par jour. Ça, ce sont ses paroles à lui. A'udhu billah. Comment on peut parler ainsi ? Il se permet tout maintenant. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Hein ? Mais quelqu'un qui craint Allah, il n'a pas besoin qu'il y ait des policiers pour le surveiller. Il fait attention parce qu'il sait qu'Allah, rien ne lui échappe dans les paroles ou dans les actes. Et même ce qu'il y a au fond de notre cœur. Allah nous connaît mieux que nous-mêmes on se connaît. Subhanahu wa ta'ala. Donc un bon musulman, il fait attention. Il se permet de dire des choses comme ça. Il se peut même que dans le public, il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Mais ils ont été éduqués ainsi. Ils ne parlent pas. Et l'erreur, elle est en face d'eux. Il n'y a rien, personne ne parle. Ils disent, ils sont contents de voir des gens parler en mal des gouvernants, le gouvernant qui, lui, il a l'armée, il a la police, il a les tribunaux, il a tout pour te faire du mal. Il a l'autorité du pays. Pour eux, c'est normal. Et il faut être courageux pour parler, alors que c'est contraire à la tradition du prophète en sallam. Mais de reprendre un prêcheur, un imam, le chef du parti ou de la secte, ou le cheikh de la confrérie, alors là, il n'y en a aucun qui a le courage de le reprendre. Subhanallah. C'est agib, c'est étonnant. C'est étonnant. Hein? Là où normalement, il y a plus de facilité à être courageux, hein, là, personne n'est connu, personne. Et si tu parles, on va dire que tu fais la fitna, n'est-ce pas ? Toi, tu es un fatan, tu es venu ici pour faire la fitna. Mais on te connaît, à la base, tu n'es pas trop d'accord avec nous. Tu es venu pour cela. Voilà, on va te trouver tout pour te repousser. D'accord ? A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Vous avez vu les contradictions ? Des exemples, il y en a plein, plein. Et c'est là qu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que leurs paroles sont contradictoires avec leurs actions. Alors que ce hadith est un hadith authentique. Beaucoup de ulama du hadith l'ont authentifié. Et c'est une réalité. Et ça a eu lieu. Comme quoi, il y a eu l'apparition des sectes et des groupes en islam. Et il restera, et il est resté dans cette communauté, le groupe secouru. Dont on a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il restera, persistera dans cette communauté un groupe apparent sur la vérité, qui sont sur le droit chemin, sur la même voie que le prophète et ses compagnons. Ne leur sera d'aucune nuisance ceux qui vont les délaisser ou ceux qui vont les contredire jusqu'à que l'heure sonne. Eux, ils sont sur le droit chemin. Que des gens soient contre eux ou pas, qu'ils les contredisent ou pas, ça ne leur est d'aucune nuisance. Vous êtes avec nous, vous n'êtes pas avec nous, nous on est dans le droit chemin, c'est ça l'essentiel. L'essentiel c'est d'être dans le droit chemin. Que les gens soient avec toi ou pas, n'est pas le grand souci. Ce groupe sauvé, rescapé, au sein de la communauté musulmane, il persistera. Il existe et il existera. Et c'est pour cela, quand on voit des gens parler au nom de l'islam et qui n'ont pas la connaissance de l'islam, ils viennent avec des atrocités. C'est pour cela que Sayyid Qutb, un littéraire qui écrivait des livres, comme des romans, d'accord, et qui était marxiste, un communiste, loin des enseignements de l'islam. Puis il se repent et il revient à l'islam, mais il tombe dans le groupe des frères musulmans. Donc pour lui, l'islam, c'est l'enseignement donné par les frères musulmans. Il entend ce qu'ils enseignent et il prend à la lettre ce qu'ils disent. Ils font des allusions, du direct ou indirect, et lui prend tout. Et il applique ce que eux lui ont dit à la base, à la fin, pour qu'eux ils disent « Ah non, lui c'est un extrémiste. Nous n'en est pas arrivé à ce stade-là. » Non ! Au sein de votre mouvement, il a entendu parler. Les gouvernants, pas les gouvernants. Ce sont des apostats, pas des apostats. Les soulèvements et ainsi de suite. Des assises secrètes avec des soldats de l'armée pour faire un putsch contre le gouvernant et ainsi de suite. Il a assisté à tout cela. Il a vu. C'est ce que vous avez enseigné à vos adeptes. Puis quand lui, il l'a dit tout haut, parce que ça, c'est parmi les méthodes employées chez ces gens-là. Il y en a, ils ont dit, se sont lavé les mains. Ah non, on en est innocent. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah illa al-azim. Et c'est ce qui est arrivé en Égypte. En Égypte, des officiers étaient membres des frères musulmans. Parmi eux, Jamal Abdel Nasser, qui sera le président de l'Égypte. Il était membre des frères musulmans. Et ils ont préparé le coup d'État contre le roi. C'était un royaume, l'Égypte. Jusqu'à les années 50, c'était un royaume. Ils avaient un roi. Et le putsch a eu lieu. Les soldats ont pris le pouvoir. Jamal Abdel Nasser est devenu le président. Jamal Abdel Nasser, il sait d'où il vient et il sait la réalité des frères musulmans. Première chose qu'il a fait, il a déclaré la guerre aux frères musulmans. Ah oui, il a dit, vous, je sais très bien. Vous voyez les coups d'État. J'étais avec vous, on a fait des assises. Subhanallah. Et voilà. Allahul Musta'an. Et on sait toutes les conséquences et le mal qui a touché la communauté. Il n'y a rien de bien en cela. Un vrai prêcheur est loin de ces agissements-là. Il est loin de ces choses-là. Wallahul Musta'an. Donc, Sayyid Qutb, il a écrit ses livres. Il était en prison. Emprisonné pendant cette période-là. Et il a dit, il a déclaré, tous les musulmans, tous les pays musulmans, ce sont des apostats. Il n'y a plus de musulmans. Voilà. Et voilà. Voilà. En état de colère. Et pour lui, vu qu'il ne peut pas patienter sur le mal qu'il y a dans la communauté, pas comme les vrais réformateurs, les vrais prêcheurs qui sont au sein de la communauté, qui patientent avec les gens et qui ne sont pas pressés de voir les résultats. Eux, ils agissent en bien, le résultat est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il vient tôt ou tard, ce n'est plus du ressort du prêcheur. Mais lui, il a déclaré que tout... Il était même plus loin, parce qu'il a détaillé. Il a détaillé, hein. Au cas où quelqu'un dirait que non, mais ceux qui vont à la mosquée, ils ne sont pas mécréants. Il a dit, même celui qui monte sur le minaret pour faire le adhan. Adhan, 5 fois par jour, il fait le adhan. Même lui, c'est un mécréant. Yani, subhanallah, ça c'est le khawarij. Khawarij, surtout ceux d'aujourd'hui, vous les entendez dire, parce que quand ils commencent, vous ne les voyez pas. Beaucoup ne les voient pas. Les ulama, quand ils parlent, les gens ne veulent pas écouter les ulama. Beaucoup de gens ne veulent pas. Et plus tard, ils disent, ah, le alim, il avait raison, mais après quoi? Ils viennent avec l'histoire de la prière. Est-ce que celui qui ne prie pas, il est musulman ou il n'est pas musulman? C'est un vrai sujet. Mais le ulama, comment eux, ils l'abordent, ce n'est pas comme les khawarij, ils l'abordent. Comme les haddad, ils l'abordent. Eux, ils l'abordent comme une question religieuse au moment venu. Voilà, on parle de la salat. Quel est le jugement de celui qui ne prie pas? Qui est la personne qui ne prie pas? Est-ce qu'on parle de celui qui ne prie jamais? Est-ce qu'on parle de celui qui prie de temps en temps? Est-ce que... Il y a des détails là-dessus, c'est un sujet. Puis après, il y a un résultat. Des ulama qui prennent un avis, d'autres qui prennent un avis. Et ça s'arrêtait là. Et les ulama n'ont jamais, jamais un s'est attaqué à l'autre. C'est l'ijtihad qui existe depuis très longtemps là-dessus. Et chacun parle la réponse sur laquelle il est convaincu. Je ne m'attarde pas là-dessus. Les khawarij, ils mettent l'accent dessus et ils se font montrer par ces sujets-là. Comme le sujet de l'udhr bil jahl. Hein? L'excuse par ignorance. Est-ce que quelqu'un qui commet un acte de mécréance, un acte de polythéisme, est-ce qu'on le déclare directement mécréant parce qu'il l'a commis, ou alors on doit vérifier hein, certaines choses et voir des conditions. Est-ce que déclarer les gens de mécréants, c'est donner à tout le monde, à tout va, ou c'est seulement des gens bien précis, compétents? Et même dans les pays musulmans, c'est un sujet qui concerne qui? Le juge du tribunal. C'est lui. Et le juge va convoquer la personne, il y a des vérifications à faire, et ainsi de suite. Taïb. Donc c'est un sujet qui existe. Et les ulama ont parlé là-dessus. Et ils ont divergé là-dessus. D'accord? Sur cette question-là. Mais ça ne va pas plus loin. Eux, ils la ramènent comme une question où il n'y a pas de divergence, il n'y a qu'un seul avis. Et ceux qui ne le voient pas, voilà, voilà, voilà. C'est comme ça qu'ils les ramènent. Pour qu'à la fin, ces khawarij, ils tuent les gens dans les mosquées. Subhanallah. Donc, ils font tout pour dire que pour être musulman, il faut prier. Celui qui ne prie pas n'est pas musulman, pour à la fin aller tuer les gens qui prient. C'est étonnant. Et regardez même leurs ancêtres, ils ont fait la même chose. Quand ils voulaient tuer quelqu'un, ils le tuent en prière. Ali radiallahu anhu, lorsqu'ils ont, celui qui l'a assassiné, Abdurrahman ibn Muljim, ce khabith là, qui l'a assassiné, quand il l'a assassiné, c'était au moment d'aller à la prière de l'Fajr. Au moment d'aller à la prière de l'Fajr. Ses copains, Abdurrahman ibn Muljim, ses amis, qui eux avaient pour mission d'aller tuer d'autres compagnons, hein, dans la prière. Il y en a un, il est parti en Égypte pour tuer Amr ibn al-As, radiallahu anhu. Mais Amr, ce jour-là, il est malade. Donc c'est un autre imam qui le remplace. Mais cet homme, il ne sait pas, il n'est pas au courant. Donc il rentre et il le tue. Il tue cet homme imam en pleine prière, en pensant que c'est Amr ibn al-As. Et l'autre, il va à Damas pour tuer Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, wa anhu sahaba ajma'in. Et il va le toucher, mais la lame elle va seulement blesser Muawiyah, et Muawiyah survivra de cette blessure, radiallahu anhu. Ces gens-là, hein, et aujourd'hui, ils ne font que répéter ce que leurs ancêtres ont fait. Rien ne les empêche de poser des bombes ou de tuer des gens dans des mosquées. Aucun problème pour eux. Donc la question de s'attarder, ils ne la ramènent pas comme les ulama la ramènent. Subhanallah. C'est pas de la même manière et pas dans les mêmes circonstances. Wallahu al-musta'an. Et la plupart des mouvements tekfiri, khawarij, extrémistes, terroristes de notre époque sont tous les enfants de la secte des frères musulmans. Sont tous les enfants de la secte des frères musulmans. C'est une pieuvre avec ses tentacules et elle lâche. Celui qui gagnera, ce sera un bien pour tout le monde, pour tous ces mouvements-là. Puis, lorsqu'ils voient que ça va mal et que l'opinion publique n'est pas trop d'accord, ils mettent ça sur le dos des salafis. C'est les salafis qui font. Hein? Ils le savent au fond d'eux que ce n'est pas vrai. Ils le savent. Et ils peuvent même prendre le mot salafi pour le salir. Wal'iyadu billah. Ils ne font en faisant cela que salir la voie sur laquelle était le prophète et ses compagnons, radiallahu ta'ala, anhum. Hadhihi at-ta'ifa la zalat wa satabqa kama akhbara bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce groupe sauvé, cette faction rescapée, restera et persistera comme nous l'a annoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tad'u ila al-haqqi wal-khayri, elle appelle à la vérité et au bien, wa ta'mur bil-ma'ruf wa tanha 'anil munkar, et elle ordonne le bien et interdit le mal, wa tudhidu al-bid'a wash-shubuhat al-mudallila bil-hujaj wal-barahin, et elle repousse, elle réfute les innovations et les ambiguïtés qui égarent avec les preuves et les arguments. Et elle combat le mal et le faux comme elle le peut. Bil-yadi, wal-lisani, wal-qalbi, avec main, langue et cœur. Fa'ala al-mu'min الثبات على ما جاء به الرسول في عقيدته وعبادته وأخلاقه. Donc, il se doit, le croyant, le véritable croyant, se doit de rester ferme sur le même chemin, la même voie sur laquelle était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la croyance, dans l'adoration et dans le comportement. Wa alayhi al-akhdh bi sunnati nabiyyihi wal iqtida bi amrihi wa mujanabati al-ahwa wal ma'asi wal bid'ah. Et il se doit de prendre comme chemin la voie du prophète alayhi salatu wa salam, d'appliquer les ordres du prophète alayhi salatu wa salam, et de s'éloigner complètement des passions, des désobéissances et des innovations. Thumma da'wa ila al-haqqi, puis il se doit d'appeler à cette vérité, et accomplir ce qu'il peut comme effort pour venir en aide, secourir sa religion. Ma yustafadu min al-hadith, les leçons qu'on retient du hadith. Fihi anna al-anbiya qad ja'u bi shara'i wa sunan li hidayati an-nas. On retient, on apprend dans ce hadith que les prophètes sont venus avec des lois, avec des enseignements pour la guider des gens. Wa fihi fadila wa maziyah ashabi al-anbiya bi ittiba'ihim sunan anbiya'ihim. Et dedans aussi, il y a la vertu et le degré des compagnons des prophètes, et ils ont eu cela par leur suivi des enseignements de leurs prophètes. وَفِيهِ ذَمُّ مَنْ خَالَفَ مَنْهَجَهُمْ بِأَنَّهُمْ خُلُوفٌ وَهُمُ الَّذِينَ يَخْلُفُونَ آبَاءَهُمْ بِشَرٍ وَمَا كَانُوا أَشْرَارًا إِلَّا بِمُخَالَفَةِ الْأَنْبِيَاءِ. Et dedans aussi, parmi les enseignements, il y a la réprimande qui est faite à celui qui contredit, qui va à l'encontre de la voie des prophètes. On les appelle les mauvais successeurs, car ils ont succédé à leurs ancêtres par un mal. Et ils ne sont devenus mauvais que parce qu'ils ont contredit leurs prophètes. وَفِيهِ ذَمُّ مَنْ يُخَالِفُ أَقْوَالُ مَنْ يُخَالِفُ أَقْوَالُ مَنْ تُخَالِفُ أَقْوَالُهُ أَفْعَالَهُ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Et il y a aussi la réprimande faite à celui dont les paroles contredisent ses actes. Et il a cité le verset, dans le sens du verset, quelle mauvaise chose auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. وفيه ذم البدع وما هي إلا فعل ما لا يأمر به الله على ألسنة أنبيائه. Et il y a aussi la réprimande et le rejet de toute forme d'innovation. Et qu'est-ce que l'innovation ? C'est de faire des choses dont Allah n'a pas ordonné dans les enseignements de ses prophètes, sur la langue de ses prophètes, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que tu fais une chose religieusement alors que cela ne t'a pas été demandé à faire. Et ça, c'est les gens du faux. Ils sont intéressés par faire ce qu'ils ne leur ont pas demandé, et au même moment, ils délaissent ce qu'ils leur ont demandé de faire. Au même moment, ils délaissent ce qu'ils leur ont demandé de faire. وفيه مدح التابعين للأنبياء الثابتين على سنتهم والمتمسكين بالاقتداء بهم. Il y a aussi les éloges qui sont faites à ceux qui suivent, aux suiveurs des prophètes, qui restent fermes sur la voie, le chemin de ces prophètes, et qui restent attachés à ce suivi. وفيه مدح هؤلاء الأتباع بصبرهم وجهادهم لمن خالف منهج الأنبياء. Il y a aussi les éloges qui sont faites à ses suiveurs de par leur patience, du fait de leur patience et du combat mené contre ceux qui vont à l'encontre, qui contredisent la voie des prophètes. وفيه بيان مراتب الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. Et il y a aussi les différentes étapes dans le combat dans le sentier d'Allah et dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. وأنه على حسب طاقة أصناف المجاهدين. Et que c'est selon la capacité et la possibilité de ces différentes étapes de ces combattants dans le sentier d'Allah. فمن يستطيع الجهاد وإزالة المنكر بيده فعليه أن يقوم بهذا الواجب. Celui qui a la capacité de repousser ce mal, cette contradiction de par sa main, réellement il en a la capacité, alors il le fera par sa main et il sera acquitté de ce devoir. ومن عجز عن هذه المرتبة واستطاع أن يقول كلمة الحق فعليه أن يقولها. Et celui qui n'a pas pu atteindre cette étape-là, alors, et qui peut le faire de par la langue, alors il s'acquittera de cette étape-là par la langue. ومن عجز عن ذلك فعليه أن يقوم بما يستطيعه وهو الجهاد بالقلب وإنكار الباطل بقلبه. Et celui qui ne peut pas par la langue, alors il redescendra à l'étape qui est dans sa capacité, la capacité de tout le monde, c'est par le cœur, il combattra ce mal par son cœur et il se désavouera, rejettera ce mal par son cœur. فَإِنْ فَاتَهُ هَذَا فَلَيْسَ بِمُؤْمِنْ وَقَدْ مَاتَ قَلْبُهُ. Et si il n'a même pas ce degré-là, cette étape-là, par le cœur, alors celui-là, il n'est pas croyant et son cœur, il est mort. Comme dans l'autre hadith, pour l'amr ma'ruf nahy al-munkar, on a le hadith qui dit « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa'in lam yastati' fabilisanih fa'in lam yastati' fabiqalbih wa dhalika da'afu al-iman. » Celui qui voit un mal qui le repousse, par sa main. S'il ne le peut, par sa langue. S'il ne le peut, par son cœur. Et voilà le plus bas degré de la foi. Et dedans aussi, on y retrouve comme enseignement que la foi n'est pas au même degré. Les gens ne sont pas tous au même degré. Et donc la foi, elle augmente et elle diminue. Ça, c'est encore une preuve de la, qu'on a dans la croyance de l'Ahl-Sunnah. Comme quoi, comme ils disent, que la foi, elle augmente et elle diminue, contrairement à des sectes égarées qui ne voient pas cela. Et derrière cela, après le combat de par le cœur, il n'y a plus, même pas un grain de moutarde comme foi dans le cœur. Donc là, on a terminé ce hadith-là. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.